Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Alors, on l'a vu dans le journal, vacances, j'oublie tout, c'est un peu le paradoxe. Alors que les Français peinent à boucler les fins de mois, ils cassent la tirelire quand même pour partir, parce que c'est important, on est au bout du rouleau, on a eu 2 années de Covid. Mais voilà, c'est pas simple. Quand vous avez une essence à 2 euros, voire 2,30 € le litre, des grèves à la SNCF, d'autres chez les personnels d'aéroports, ça éloigne encore plus les vacances. Bonsoir à mes invités, bonsoir à vous, Fabrice Michaud,
bonsoir.
Secrétaire général de la CGT Transport. Bonsoir à Michel Kidor, qui est en ligne avec nous. Bonsoir Michel Kidor. Vous êtes vice-président de la FNOT, la Fédération Nationale des Usagers des Transports. Et bonsoir à Francis Pousse.
Bonsoir.
Président national des propriétaires exploitants de stations-service, cadre chez Mobilience. Tiens, commençons par vous, Francis. Y a-t-il un tarissement des automobilistes dans les stations au départ des vacances? Il faut quand même bien faire le plein, j'imagine. Mais du coup, est-ce qu'on choisit sa station? On va plutôt dans les grandes surfaces, dans les stations low cost? Est-ce que c'est vraiment très important? Là, on est à combien d'ailleurs le prix du litre en moyenne?
Aujourd'hui, on est à une moyenne de, entre 1,95 € et 2 €, puisque ces derniers jours, le baril a bien baissé, remonté un peu hier, mais malheureusement, on est pénalisé par un dollar qui est très fort, et comme on achète le baril de pétrole en dollars, forcément, ça nous coûte cher. Pour revenir à votre question, les gens partent en vacances, il semblerait que, effectivement, on ait des volumes dès le début du mois qui soient un peu similaires à ceux des années passées. Et vous l'avez dit fort justement, je pense que les gens ont envie de partir. Alors, effectivement, malheureusement pour les stations que je représente, à savoir les stations hors grande surface, il y a peut-être un décalage vers les lieux où c'est moins cher, ce que je ne peux pas
comprendre, bien évidemment. Mais est-ce qu'on peut constater qu'il y a moins de monde que d'habitude?
Non, aujourd'hui, sincèrement, il n'y a pas moins de monde que d'habitude.
Ouais. Les voitures sont encore très souvent diesel, alors que le diesel n'est pourtant pas trop à la page. Le diesel, il est quoi? Il est plus cher ou moins cher en ce moment?
On va dire qu'en ce moment, il est à peu près éthanol. C'est-à-dire qu'on a un gasoil au prix du sans-plomb. Ce n'est pas le cas il y a quelques jours. La situation de la guerre en Ukraine a effectivement inversé ce qu'on connaissait depuis quasiment tout temps, à savoir un gasoil moins cher d'une dizaine de centimes par rapport au sans-plomb. Mais en ce moment, ça va, ça vient, parce que ça dépend aussi des cours de produits finis à Rotterdam. Et avec une importation de diesel qui était importante de la part de la Russie, forcément, si on en manque un peu de la part de la Russie, pour aller chercher plus loin, ça fait augmenter les cours du diesel. C'est la raison de son augmentation.
Francis Pousse, une dernière question, parce que je sais que vous avez des obligations, donc je vais vous libérer juste après. Est-ce que les gens qui viennent faire leur plein, ils font pas le plein, c'est-à-dire qu'ils disent on va prendre pour 20, pour 30, pour 40 €?
Oui, ça par contre, effectivement, c'est pas du jour le jour, mais c'est de la semaine pour ceux qui roulent pas beaucoup, parce que les prix sont importants. Je pense que chacun espère que ça baisse un peu la semaine d'après, donc il y a moins de phénomènes pleins. Alors, sauf, évidemment, quand on part en vacances, là, on a tout intérêt à faire le plein pour éviter plusieurs arrêts. Mais il y a une redistribution des cartes. Il y a certainement aussi un peu plus de covoiturage. Mais aujourd'hui, on ne le voit pas dans les chiffres vendus.
Merci beaucoup, Francis Pousse. Merci d'avoir été avec nous quelques instants sur Europe 1. Vous êtes le président national des propriétaires exploitants de stations-service chez Mobilience. Fabrice Michaud, je marche sur des œufs en vous posant la question. C'est vrai, c'est... On ne fait pas grève par plaisir, tout le monde le sait, les Français le savent. Ça coûte de l'argent aux grévistes d'ailleurs. Il faut parfois créer des caisses de grève quand le conflit dure. Mais quand même, la grève au moment des vacances, au moment des départs, c'est pourquoi? C'est parce que c'est le seul moyen de se faire entendre?
Alors déjà, c'est une démarche qu'on a engagée il y a quelques mois, puisque les problèmes de salaire et d'effectifs sont constatés depuis un certain temps sur les aéroports. Donc on a interpellé dès le 9 juin, il y a eu un premier mouvement de grève et bien en amont de ce mouvement-là, la plupart des entreprises ont été sollicitées justement sur les problèmes d'effectifs et de salaires, puisqu'il faut savoir que la crise Covid a permis au patronat d'accélérer les transformations d'entreprise et donc de supprimer des effectifs, ce qui pose des problèmes d'organisation que l'on peut voir sans qu'il y ait grève, puisque les files d'attente aux postes d'inspection filtrage ou les problèmes d'acheminement bagages, quel que soit...
On a vu d'ailleurs la catastrophe des bagages le week-end dernier à Roissy.
Qui a été amplifiée d'ailleurs par le mouvement de grève, mais au départ c'est une anomalie technique. Donc on est bien dans une situation de gestion au quotidien qui est tendue. Et donc la problématique pour répondre aux besoins opérationnels, on n'a pas les ressources humaines en face. Donc Il y a deux sujets. Donc, il y a le sujet des salaires avec l'inflation, puisque on a une inflation à 6% et les salaires n'ont pas augmenté de 6%. Donc, c'est pour ça que la revendication des salariés de la sous-traitance de l'ensemble des aéroports est une demande d'augmentation de 300 euros d'augmentation générale de salaire et bien sûr le problème des effectifs derrière.
Alors, je parlais de la SNCF, mais c'est un problème qui est quasi identique. Ça pousse les entreprises à agir. La SNCF a accordé 3,7% d'augmentation pour les petits salaires mercredi dernier, 2,2% pour les cadres. Même si vous ne représentez pas la SNCF, c'est trop peu.
C'est trop peu, donc je ne peux pas m'exprimer pour les cheminots, mais c'est à peu près la même proportion d'augmentation de salaire qu'on a eu dans le cadre du préavis de grève qu'on a posé au niveau d'Aéroports de Paris pour l'ensemble des salariés. Donc on a obtenu 3% d'augmentation, gel de l'accord de modération salariale, ce qui fait qu'on va avoir entre guillemets une augmentation de 3%, mais le retard qui a été pris n'est pas rattrapé. C'est-à-dire qu'il y a un problème de pouvoir d'achat et d'inflation et de conditions salariales qui est bien présent.
Donc les grèves, si je comprends bien, là en l'occurrence ce préavis, le problème est plus long que là maintenant de départ en vacances, mais est-ce qu'on va quand même avoir dans la foulée des grèves, j'allais dire, un peu punch comme ça au moment des vacances, parce que bah, au moins ça fonctionne et les entreprises, j'allais dire, tout de suite lâchent de l'argent et font des augmentations plutôt que si vous faisiez ça, je ne sais pas moi, en plein milieu du mois de mars.
Là,
même s'il y a des vacances, il y a des vacances tout le
là,
temps.
Là, vous faisiez référence à la SNCF et à l'aéroport de Paris, c'est quand même des entreprises où l'État est actionnaire majoritaire.
Ouais, ouais.
Donc il y a un levier majeur de l'État. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau des entreprises de sous-traitance, on va être à notre troisième préavis là, le week-end prochain. Les patrons ne répondent pas aux demandes des salariés, puisque la plupart du temps, les minima conventionnels sont en dessous du SMIC. Et quand il y a une augmentation du SMIC, il n'y a pas automaticité d'augmentation des minima conventionnels, ce que demande la CGT. Donc c'est un problème de fond. Et on renvoie vers les accords de branche et les négociations conventionnelles. Et donc, s'il n'y a pas une volonté du patronat de créer les conditions d'un dialogue social constructif, ben on reste dans l'impasse, ce que l'on peut constater aujourd'hui malheureusement.
Michel Kidor pour la Fédération des usagers des transports. Quand vous entendez les arguments de Fabrice Michaud, qui sont des arguments de Français hein, qui travaillent dans les entreprises de transport, qu'est-ce que vous leur répondez ?
Nous leur répondons que la grève n'est pas en question, c'est pas le sujet à la limite. Le problème, c'est la procédure suivie. Pour parler de la SNCF, le préavis de grève pour la journée du 6 a été déposé 10 jours, si je ne me trompe, avant le début des négociations. Il serait quand même plus logique d'attendre que les négociations commencent, le 6, et puis ensuite, si ça coince, éventuellement le mot de grève. Seulement, comme par hasard, on a choisi le jour des négos, qui était le 6, les syndicats, pour poser un préavis pour le 6, pour enquiquiner, si je puis dire, au maximum, les voyageurs, les usagers, qui servent de levier, de masse de manœuvre dans un conflit qui ne détiennent absolument pas la clé. Ça, on compte sur les syndicats comptent sur le mécontentement des voyageurs pour déclencher l'action chez la SNCF ou au ministère des Transports, que sais-je. Mais la procédure choisie montre bien que là, il y a une volonté délibérée d'appuyer là où ça fait mal, d'appuyer sur le bouton nucléaire contre les usagers pour des motifs de rapport de force dans lesquels ils n'ont rien à voir.
Qu'est-ce que vous répondez, Fabrice Michaud ?
Alors, tout d'abord, les préavis sont faits normalement pour trouver un accord avant que la grève soit déclenchée. Donc, si la grève est déclenchée, c'est qu'il n'y a pas une volonté du patronat de négocier ou de l'entreprise en question qui fait référence à la SNCF ou à l'aéroport de Paris. Moi, je pense qu'il faudrait...
Ça veut dire qu'au début, l'entreprise, elle vous dit non ?
De
toute façon, non.
Il y a des alarmes sociales.
Dans
certains secteurs d'activité, vous avez le principe des alarmes sociales et le principe des préavis de grève. L'objectif, c'est de trouver un accord avant de déclencher le préavis. On n'est pas là non plus, on ne fait pas grève pour s'amuser et pour enquiquiner les gens, comme le déclare mon interlocuteur. Et moi, ce que je veux dire une chose, c'est que les conditions de travail déterminent les conditions de la qualité de service et d'organisation des transports. À partir du moment où vous avez des problèmes d'effectifs, vous avez automatiquement des répercussions sur les transports. Alors j'entends qu'on choisit de faire grève pendant les vacances. Je tiens à rappeler quand même une chose, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons interpellé le patronat et le gouvernement sur un certain nombre de problématiques que nous rencontrions. Donc s'il n'y a pas de réponse, à un moment ou à un autre, il faut se faire entendre. Et je pense que ce n'est pas uniquement le problème du patronat, c'est également le problème du gouvernement, puisqu'il y a un certain nombre de missions qui relèvent de délégations de services publics, notamment sur les aéroports, et où le gouvernement a toute sa place dans la négociation. Et quand j'entends le ministre de l'économie déclarer qu'il faut faire en sorte d'augmenter les salaires pour maintenir le pouvoir d'achat, qu'on passe aux actes et qu'on reste pas sur les principes.
Michel Kidor, est-ce qu'il ne faut pas déplacer le problème et pas toujours s'en prendre, entre guillemets, ou en tout cas viser les grévistes?
Il n'est pas question de viser les grévistes, il est question de viser une action syndicale qui est généralement organisée, ce n'est pas la première fois que ça se produit, au plus mauvais moment. Je suis désolé, j'ai entendu, comme tout le monde a entendu, que des négociations étaient prévues à la SNCF sur ces sujets-là le 6 juillet. Il y a eu un préavis de grève pour cette date-là, bien en amont, avant que les négociations annoncées aient débuté. La logique voudrait qu'on négocie d'abord, comme je le dis, j'excuse de me répéter, on négocie d'abord et ensuite, si ça coince, on compte. On ne conteste pas l'éventuel bien fondé des revendications.
J'entends bien.
C'est la procédure choisie qui fait qu'on a l'impression qu'on marche sur la tête.
Mais quand Fabrice Michaud vous dit qu'on ne fait pas grève par plaisir, ça amuse personne, ça amuse pas les cheminots et les bagagistes de Roissy de faire grève, qu'est-ce que vous lui répondez?
Ça, je suis incapable de répondre pour savoir si ça fait plaisir ou non de faire grève. Je pense que c'est une... Il y a le principe de la grève qui, effectivement, est certainement un sacrifice à différents points de vue, pour autant que les jours de grève ne soient pas payés, comme ça arrive de temps en temps. Et puis, il y a aussi, encore une fois, la procédure choisie, Les grévistes, c'est pas tellement la justification, les revendications qui sont en cause, c'est la procédure suivie. Encore une fois, on est d'abord dans des revendications et encore une fois, on crie avant d'avoir mal, si je puis dire. Marchons dans le bon sens et commençons les négociations. C'est comme ça que ça se passe ailleurs, dans d'autres pays. On voit pas pourquoi en France. Alors, je pense que pour Aéroports de Paris, on est certainement dans un autre contexte que la SNCF, encore que, comme vous l'avez dit, la tutelle, c'est l'État dans les deux cas, mais il y a aussi une entreprise qui joue son rôle. L'entreprise, c'est pas la marionnette de l'État, elle a une certaine autonomie. Donc, on est bien d'accord là-dessus, mais négocions d'abord, et pour trouver un accord d'ailleurs, la preuve, un accord a été trouvé. Qui sait, n'aurait-il pas été trouvé sans cette menace et sans la perturbation dans la vie quotidienne de centaines de milliers de personnes?
Fabrice Michaud, pour répondre à ce qui vient d'être dit, et notamment sur justement le levier qu'ont ADP par rapport à l'État.
Alors il faut savoir que pourquoi il y a eu grève au niveau d'Aéroports de Paris et sur les aéroports, puisque ça remonte à début juin, il y avait une négociation dite sociale engagée par Aéroports de Paris et qui proposait 0,1% d'augmentation de salaire.
0,1.
Oui, 0,1, voilà. Donc, on peut s'interroger sur le bien fondé de cette négociation, en sachant qu'Aéroports de Paris a mis en place un accord de modération salariale qui a biaisé les salariés de 5% de leur rémunération. Donc, au final, les 6%, on avait tout le lieu de les justicier. Moi, ce que je veux dire, c'est que la grève, elle n'est pas là pour enquiquiner les gens. Je vous invite juste, il n'y aura pas de grève cet été. Enfin, il y aura des grèves sur certains week-ends et vous verrez.
Breaking news là. Ouais. Il n'y aura pas de grève cet été, nous dit aujourd'hui Fabrice Michaud.
J'ai été un peu vite dans mon. Non, il y aura des mouvements de grève des salariés de la sous-traitance, puisque les salariés de la sous-traitance sont toujours malheureusement.
Alors, c'est qui ça pour comprendre?
Alors, donc, c'est les agents de sûreté, les bagagistes, les loueurs de voitures, toute la communauté aéroportuaire. Qui contribue à l'activité de l'aéroport, des aéroports, parce que ce n'est pas un mouvement uniquement sur Paris, puisqu'on a pu constater qu'il y avait eu un mouvement sur Bordeaux, sur Marseille, sur Lyon.
Les loueurs de voitures, c'est-à-dire qu'on peut arriver, on arrive à son vol, on a commandé une voiture de location, et puis finalement le bureau est fermé.
Voilà. Le problème, c'est que pour les activités aéroportuaires, on a une multitude de champs professionnels concernés. Donc je pense que le gouvernement devrait s'interroger sur la colère sociale qui gronde actuellement sur les aéroports. Ce n'est pas une colère sociale pour rien, puisqu'il y a malheureusement une pression mise sur les salariés et cette pression a des conséquences sur les conditions de travail. Juste pour vous donner un exemple malheureusement triste, c'est qu'on a une salariée qui est décédée sur les pistes vendredi le 3 juillet. Par rapport à... On ne connaît pas encore les circonstances, mais on sait très bien qu'il y a une pression qui est mise sur les salariés. Parfois, involontairement, ils ne respectent pas certaines choses. Donc, il y a vraiment des...
Elle est décédée, c'est-à-dire elle a mis fin à ses jours?
Non, elle est décédée suite à un accident du travail.
Un accident du travail.
Elle a été renversée sur les pistes et donc actuellement il y a une enquête de gendarmerie. Donc je pourrais pas à Roissy. Ouais. Donc je ne pourrais pas me permettre d'interpeller et d'interpréter cet accident. Cette personne a perdu la vie et on ne peut pas mourir au travail aujourd'hui.
Michel Kidor, un nouveau ministre des Transports, Clément Beaune, a été nommé. Est-ce que vous avez toute une série de dossiers à lui présenter et justement ce problème des grèves à répétition?
On est très heureux qu'un ministre ait été nommé parce que pendant longtemps, pendant un certain temps, le premier gouvernement n'en avait pas de ministre des Transports. C'était quand même un peu inquiétant. C'est la première fois que ça se produisait depuis plusieurs dizaines d'années. Oui, on a un certain nombre de revendications. En ce qui concerne la facilité de voyage, on y reviendra, mais en ce qui concerne la question sociale que vous mentionnez, il est clair que pour notamment tout ce qui touche aux activités de service public, nous souhaitons qu'il y ait un service public minimum qui soit établi dans les services publics en cas de grève. C'est quelque chose qui est complètement rentré dans les mœurs.
Ça fait des décennies qu'on en parle, ça, Michel Kieder, de ce service minimum.
Tout à fait. Oui, mais il faut reconnaître que d'abord, ça existe en Italie comme en Allemagne, hein, des pays qui fonctionnent de manière quand même un peu différente. Nous avions soulevé ce problème il y a quelques années, et de la part dans le précédent gouvernement, de la première première présidence, en 2020, avait décidé de créer un groupe de réflexion présidé par un magistrat de la Cour de cassation du Conseil d'État. Ça partait sous de bons auspices et ça s'est malheureusement perdu dans les sables. Mais encore une fois, c'est pas une utopie, enfin, puisque encore une fois, ça existe aussi bien en Espagne qu'aux Pays-Bas, en Allemagne ou en Italie. Donc on est dans les services publics, et je pense notamment à tout ce qui est ferroviaire. Le transport aérien, c'est un autre débat, évidemment sous cet aspect. Mais on est dans des masses transportées par le ferroviaire qui sont sans commune mesure avec les masses transportées par le transport aérien. Donc la priorité, nous réclamons, c'est effectivement une réflexion sur ce sujet-là, parce que vous l'avez fort utilement
rappelé.
Pour rappeler en introduction, il y a un problème de pouvoir d'achat, et on pense que le train peut lui donner un signal prix qui peut lui permettre de démarrer et de déplacer des masses plus importantes et de résoudre dans certains déplacements le problème du coût du carburant qui aujourd'hui devient quelque chose d'effectivement astronomique pour beaucoup de Français. Donc là, il faudrait pas non plus que des services.
En tout cas, vous êtes d'accord avec Fabrice Michaud sur une chose, c'est qu'il y a enfin un ministre des Transports et on va pouvoir dialoguer avec lui. Merci à vous deux d'avoir participé au débat de Panorama. Je me dépêche parce que Axel May nous attend à Aigle, en Suisse, pour un club tour spécial. C'est la suite du Tour de France. Et là, on est à l'Union Cycliste Internationale. Ça ne rigole pas, Axel, dans un petit instant. A tout de suite et bonne soirée sur Europe 1.